Pierre, première épître de Pierre.
Alors Pierre, quel phénomène, et on peut s'apercevoir finalement qu'à travers l'apôtre Pierre, eh bien, il n'y a pas de cause désespérée. Pierre, c'est celui dans les évangiles qui a renié le Seigneur Jésus-Christ et qui était fort dans l'abattement, dans le découragement d'avoir commis ce péché. Et pourtant, il reçoit le pardon de son maître. Il fait un bout de chemin dans sa marche chrétienne. Et puis là, qu'est-ce qui arrive? Il nous laisse deux épîtres extraordinaires. Il nous parle que le Seigneur non seulement veut nous sauver, non seulement le Seigneur veut nous restaurer, mais à travers ces deux épîtres, Pierre veut nous rappeler aussi l'espérance vivante que nous avons reçue. Et j'aimerais ce matin, attirer votre attention sur un sujet important, très important que nous retrouvons dans 1 Pierre, la première. Bon, je ne pouvais pas lire les 5 chapitres, quoi, tous les chapitres de l'Épître de Pierre, mais regardez quelques passages ensemble dans le premier chapitre et qui devraient en fait tous nous encourager. Alors, on va lire quelques passages ensemble. Et alors, Pierre qui écrit finalement, qui est apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers, dispersés à différents endroits et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Et là, il commence, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Et là, ça signifie quoi ici? C'est que l'espérance vivante qu'a le chrétien, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Le monde, tout ce qu'il peut offrir aux gens dans le monde, c'est une espérance décevante. Les gens, on va créer toutes sortes d'ambitions aux gens pour leur permettre de vivre et de leur montrer que ça vaut quand même la peine de vivre. Les gens vont s'amasser des biens, mais on appelle ça une espérance décevante. Pourquoi? Parce qu'à la fin de leur vie, les gens réalisent dans le monde qu'ils ont passé des heures à s'investir, souvent à travers leur travail, à s'amasser des biens, à s'amasser un patrimoine, qu'ils devront laisser ici à leurs héritiers sans savoir ce que les héritiers vont faire avec. On appelle ça une espérance décevante. Mais à travers Jésus-Christ, on a une espérance vivante. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est pas la fin de toute chose dans ce monde pour le chrétien, mais que c'est le début d'une nouvelle vie avec le Seigneur Jésus. Et Pierre, ici, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. Alors, c'est extraordinaire, on n'est pas seulement des enfants, mais on est aussi des héritiers, et Dieu garde pour nous, il est notre Père, donc en principe, un Père laisse toujours un héritage à ses enfants, et Pierre est en train de nous dire ici que notre bon Père céleste, eh bien non seulement nous a sauvés à travers la personne de Jésus-Christ, mais qu'il a un héritage pour nous dans le ciel. Et il continue. « Vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. » Et la puissance de Dieu ici, souvent on fait référence à Dieu qui est tout-puissant et puis l'invisible qui survole autour de nous. Mais il faut se rappeler dans Romains chapitre 1, les versets 16 et 17, Paul dit « Je n'ai point honte de l'Évangile, car c'est la puissance de Dieu. » C'est la puissance de Dieu. Et qu'est-ce qui nous garde? C'est par la puissance de Dieu, c'est à travers sa parole. Voilà pourquoi c'est important pour nous en tant que chrétiens de plonger nos regards constamment dans la parole pour nous rappeler les promesses éternelles qu'on peut goûter maintenant et pour l'éternité. Ces promesses-là que Dieu nous dévoile dans sa parole. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés par un peu de temps, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Le but des épreuves, c'est aussi de pouvoir rendre gloire à Dieu, de pouvoir le glorifier. Pourquoi? On va le voir tantôt. Il y a une raison pourquoi Dieu permet les épreuves dans la vie du croyant. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Alors, c'est pas pour rien qu'on a la foi, c'est pas pour rien qu'on doit marcher par la foi, c'est pas pour rien que la parole de Dieu nous dit que le juste vivra et marchera par la foi parce qu'il y a un prix. Il y a un prix au bout du chemin qui nous est accordé, Et Pierre le dit ici, c'est le salut de vos âmes. C'est le salut de vos âmes. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Et là ici, verset 13, il dit, c'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Verset 22, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Verset 25, il termine en disant, et cette parole, eh bien, c'est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Donc, on entend l'Évangile, et la parole nous dit que c'est à travers l'Évangile que la foi vient. Ça veut dire quoi? C'est qu'on entend le message, on entend la vérité, on a entendu le message dans le monde, le message qui est véhiculé dans le monde à travers toutes sortes de philosophies, de systèmes de pensée. Depuis qu'on est au monde, on y a cru, hein, jusqu'à tant aussi longtemps qu'on était dans l'ignorance, nous dit l'apôtre Pierre, on y a cru. Et puis là, on entend un jour, on entend un autre message, on entend le message de l'Évangile qui parle de la personne de Jésus-Christ. Et là, eh bien, on l'accepte. Par la foi, on accepte, on se dit, ça, c'est la vérité. Et maintenant, ben, je laisse tomber l'ancien système dans lequel je baignais pour accepter la vérité qui vient de Jésus-Christ. Et là, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, la foi, c'est ce que l'apôtre dit, hein, la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et à travers cette foi-là, eh bien, on grandit. Et le salut, eh bien, et le prix de notre foi, c'est le salut de nos âmes. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce ce matin encore une fois pour cette parole que tu nous as laissée. Cette parole, Seigneur, qui a permis de créer en nous cette foi qui sauve, Seigneur, cette foi vivante, qui nous rappelle que le prix qui est rattaché, Seigneur, c'est le salut de nos âmes. Et Seigneur, tu nous as rappelé que ce salut nous sera révélé quand tu reviendras. Et lorsque nous regardons les signes des temps, eh bien, nous te demandons, Seigneur, de revenir le plus tôt possible pour mettre fin à toute cette misère, que le monde vit, à tous ces abus, Seigneur, qui sont véhiculés dans ce monde, qui sont véhiculés dans tous les pays du monde, et tout cela à cause du péché. Seigneur, viens mettre fin à cette misère, viens chercher les tiens, viens établir ton royaume, Seigneur, sur cette nouvelle terre et ce nouveau ciel, afin que nous puissions passer l'éternité ensemble dans ta présence. Et tout cela, c'est pour la gloire de ton nom que nous te demandons. Le peuple de Dieu dit, amen. Alors, on lit ici au verset 3 que c'est pour une espérance vivante que nous avons été régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Et tout comme Jésus a été ressuscité d'entre les morts, eh bien, ce qui la promesse, c'est une des promesses que la parole nous donne, c'est que nous aussi, nous serons ressuscités un jour. Mes amis, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce que nous deviendrons n'a pas encore été clairement révélé. Heureusement, parce que si tout nous était dévoilé, j'en ai parlé la semaine passée, on n'aurait pas besoin de vivre par la foi. La foi. Alors, mes amis, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce que nous deviendrons n'a pas encore été clairement révélé. Cependant, nous savons ceci, quand le Christ paraîtra, nous deviendrons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Être semblable à lui, je pense que c'est l'espérance de tout chrétien. Lorsque le Seigneur va revenir, écoutez, dans notre corps mortel, on va être transformé, et il va venir dans son corps glorifié, et en un clin d'œil, on va être changé, nous dit la parole, dans 1 Thessaloniciens, et qu'est-ce qui va arriver? On va devenir semblable à lui. On va devenir semblable à lui, c'est-à-dire que notre corps va être transformé, et puis là, on va être capable de le voir tel qu'il est, parce qu'on va aussi avoir un corps glorifié. J'espère que c'est votre espérance ce matin, que le Seigneur puisse revenir en 2013, et bon, je prophétise pas, moi, sur la fin des temps, mais moi, j'espère que de mon vivant, le Seigneur va revenir et que nous puissions être tous enlevés et tous transformés pour voir notre Seigneur tel qu'il est. Amen. Donc, je pense que ça, c'est important. Paul et Pierre sont restés que très peu de temps ensemble, mais ils ont tous les deux été inspirés pour prêcher cette vérité aux chrétiens. Tous ceux qui ont été régénérés, c'est-à-dire quoi régénérer? Et c'est pas un mot qui apparaît souvent dans les Écritures. Le mot régénérer, c'est-à-dire que c'est de nous, qu'on a reçu une nouvelle vie, ça fait référence à la nouvelle naissance. On a reçu une nouvelle naissance, on a reçu une nouvelle espérance, on a reçu un nouveau royaume, on a reçu un nouvel héritage, on a reçu de nouvelles promesses, et on doit fonctionner dans cette nouvelle vie que le Seigneur nous a donnée. Hein? Et c'est ce que Paul dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Hein? Vous le prenez dans plusieurs versions. Hein, c'est... Ah, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Voici toutes choses anciennes sont devenues nouvelles. Ouais. Merci. Toutes choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et ça, c'est pour ceux. C'est un passage qui s'adresse uniquement à ceux qui sont nés de nouveau. Si vous n'êtes pas nés de nouveau, c'est pas un verset que vous pouvez voir la réalité dans vos vies, puisqu'on dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Ça fait référence à la nouvelle naissance. Et ça, cette chose-là qui change l'aspect de notre vie. Nouvelle naissance, nouvelle promesse, nouveau royaume, et on attend finalement cette bonne nouvelle que Jésus revient chercher les siens. Tous ceux qui ont été régénérés, nous dit Pierre, ont reçu une nouvelle vie pour une espérance vivante à travers la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Pourquoi cette vérité est-elle importante à saisir? Si moi, ce matin, je vous prêche que vous recevez le pardon de vos péchés à travers la croix de Jésus-Christ, mais que je vous annonce pas la résurrection, que j'ai aucune preuve pour vous parler de résurrection, eh bien, il peut avoir effacé vos péchés, il peut être mort pour vos péchés, mais si ça se limite à ça, son sacrifice, ben écoutez, on s'en va nulle part, quoi. Ce qui fait la puissance de la croix, c'est que il y a quelque chose après, c'est la résurrection, quoi. Et le fait qu'il soit ressuscité, ça confirme que Dieu, à travers son sacrifice, reconnu que ce sacrifice était parfait, suffisamment parfait, en tout cas, pour effacer tous nos péchés, pour qu'on reçoive notre pardon. Et là, on passe à l'étape suivante. On est mort en Christ à la croix, et on ressuscite avec lui à travers sa résurrection. Et ça, c'est important. C'est important. Pardon des péchés à travers la résurrection, délivrance des péchés, dérivance de l'esclavage des péchés à travers la résurrection. Il a vaincu la mort. Vaincre la mort, c'est vaincre Satan, c'est vaincre le monde, c'est vaincre le péché. Et ça, ça fait partie de l'héritage qu'on reçoit. Je l'ai dit, je pense que c'est au cours du mercredi, je le dis malheureusement, mais souvent on se limite uniquement à la croix. Mais la résurrection, elle est très, très importante. Très importante, la résurrection. Parce que c'est là qu'on va chercher, c'est là que la délivrance sur nos péchés devient une réalité. Et ça, c'est vraiment fondamental. Il y a des chrétiens qui passent leur vie à venir à la croix, mais qui ne prennent pas, qui ne saisissent pas l'héritage qu'il y a à travers la résurrection de Jésus-Christ, et qui viennent constamment confesser leurs péchés. Mais la victoire, elle est à la résurrection. Amen. C'est pas moi qui le dis, c'est les Écritures qui le disent. Ça, c'est vraiment important. C'est très, très important, et c'est pour ça qu'on doit prêcher. Non seulement, c'est pour ça que Paul va dire, quand j'étais parmi vous, j'ai prêché Christ crucifié, et quand vous lisez le reste, il ne pouvait pas passer à côté de la résurrection. Donc, quand Paul souligne qu'il a parlé de Christ crucifié, c'est pour le pardon des péchés, mais aussi, il a parlé de Christ ressuscité pour la délivrance, quoi. Pour la délivrance de nos péchés et aussi pour la délivrance de tout ce qui nous maintenait esclaves. Frères et sœurs, Paul le dit très bien dans 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 14 à 20. Il dit, si Christ n'est pas revenu à la vie, non seulement nous n'avons rien à prêcher, et c'est vrai, on n'a rien à prêcher, mais vous n'avez rien à croire et ce que nous prêchons n'a aucune valeur. De plus, votre foi est une illusion et vous êtes encore perdus dans vos péchés. Et ceux qui sont morts en croyant au Christ sont aussi perdus. Si notre espérance dans le Christ est valable uniquement pour cette vie, alors, il dit Paul, ce qu'il dit, on est alors les plus à plaindre des hommes, quoi. Parce qu'on marche autant comme les gens du monde dans une fausse espérance. Parce que si Christ n'est pas ressuscité, il n'y a rien qui nous dit qu'une vie après la mort. Et moi, ce que je vous raconterai en avant, à ce moment-là, c'est du blabla, quoi. Ah, peut-être qu'il dit la vérité, peut-être une nouvelle philosophie. C'est ça ce qui se passe dans le monde à peu près tous les 20 ans. Hein? Il y a quelqu'un qui nous invente une nouvelle façon de vivre. Il y a quelqu'un qui nous passe une nouvelle philosophie. Il y a quelqu'un qui crée une nouvelle religion. Il est incapable de démontrer qu'il y a la vie après la mort s'il ne prêche pas l'évangile de Jésus-Christ. Il ne peut pas donner l'assurance aux gens que leurs péchés sont pardonnés s'il ne prêche pas la croix de Jésus-Christ. Et ça, c'est important. Ça, c'est ce qui fait l'unicité du véritable christianisme. Mais la réalité, dit Paul, c'est que le Christ est revenu de la mort à la vie en donnant ainsi la garantie que ceux qui sont morts reviendront également à la vie. Nous avons donc maintenant l'espérance vivante que nous serons nous aussi ainsi transformés, que nous recevrons le même corps que lui. Et moi, la transfiguration, c'est... La transfiguration, moi, ça me confirme non seulement qu'il y a une vie après la mort, mais ça me confirme que Moïse et Élie sont sauvés. Mais ça me permet aussi de voir, d'aller voir dans leur corps glorifié. Et Jésus dans son corps glorifié. Bon, on peut débattre ce qu'on voudra. Moi, je crois qu'on va se reconnaître. Il y a plusieurs passages qui nous disent qu'on va se reconnaître de l'autre côté. Et j'utilise ce passage de la transfiguration aussi pour confirmer, pour soutenir ma position. On voit très bien Jésus, on voit très bien Moïse, on voit très bien Élie, qui sont dans un corps glorifié. Et moi, je pense que c'était vraiment un message d'espoir extraordinaire pour les apôtres, quoi. Écoutez, je vais ressusciter, je vais regarder le corps que vous allez avoir pour l'éternité, quoi. Ils rentrent dans un nuage, ils sont là tous les trois, ils parlent ensemble. Donc, on va pouvoir échanger ensemble, quoi. On va pouvoir manger ensemble, on va pouvoir boire ensemble, quoi. C'est extraordinaire, ça. Magnifique, quoi. Alors, les promesses éternelles, on doit s'accrocher aux promesses éternelles en tant qu'enfant, en tant que peuple, membre du peuple de Dieu. Nous qui n'étions qu'un peuple, nous sommes maintenant le peuple de Dieu, retirés au bon moment de la boue. Peu importe la profondeur dans laquelle vous vous trouviez, quand on est dans le péché, on est toujours dans la boue. Toujours. Et Dieu ne nous a pas sortis de la boue pour nous enfoncer dans quelque chose encore plus grave. Dieu nous a sortis de la boue pour nous laver de nos péchés à travers le sang de Jésus-Christ et pour nous purifier à travers aussi son sacrifice. Et de faire de nous, eh bien, un peuple. Un peuple qui est précieux à ses yeux. Il a donné son Fils, Jésus. Il l'a sacrifié pour nous racheter, afin que par sa grâce, nous soyons reconnus justes. Et ça, c'est important qu'on se rappelle toujours que c'est par la grâce. C'est pas que je suis moins bon qu'un autre, ou que je suis meilleur qu'un autre, que oui, moi, le ciel, c'était certain que je l'aurais eu, quoi. Non. Il n'y a pas une question de bon, hein. On le répète souvent, je le répète souvent depuis 13 ans, si dans les religions, il y a des catégories de péchés, dans le Seigneur, il n'y a pas de catégorie de péché. Hein? Il n'y a pas de péché véniel, il n'y a pas de péché mortel, il n'y a pas de sacrilège. Un péché pour le Seigneur, ça reste un péché. Et à partir du moment où on pêche, eh bien, on est condamné, quoi. Hein, ça a pris combien de péchés à Adam pour être condamné, pour perdre sa relation avec Dieu? Il a donné son Fils Jésus. Ça, c'est le prix que Dieu a évalué. C'est ce qu'on vaut aux yeux de Dieu. C'est donner son Fils. Il l'a donné en sacrifice pour nous racheter, afin que par sa grâce, nous soyons rendus justes et que nous devenions un en étant unis à Jésus-Christ. Héritier dans l'espérance de la vie éternelle, nous dit l'apôtre Pierre ici. Un héritier s'attend à recevoir un héritage, et cet héritage, c'est la vie éternelle et tout ce qui y est rattaché. L'héritage du croyant, c'est la vie éternelle et tout ce qui est rattaché à cette vie éternelle. C'est-à-dire la joie éternelle. On va le voir. Encore une fois, c'est pas moi qui le dis. On va le voir dans d'autres passages, dans Pierre tantôt. Dans Isaïe, notre joie, elle va être éternelle. Quoi. C'est magnifique, ça. Vous avez été choisis, élus, dit Pierre, afin de proclamer. 1 Pierre 2, verset 9-10, pour ceux qui ont leur Bible. Vous avez été choisis, élus. Pourquoi? Pour attendre la venue du Seigneur Jésus? Non, ça, c'est le but. Il nous décrit ici le but. Dieu en Christ a créé l'Église, afin que vous proclamiez les œuvres magnifiques de Dieu qui vous a appelé à passer de l'obscurité à sa merveilleuse lumière. Et c'est ça le témoignage que les gens du monde attendent de nous. Voici ce que j'étais avant, voici maintenant quand j'ai rencontré Jésus-Christ, la transformation qui s'est passée dans ma vie. J'étais dans les ténèbres, je suis passé maintenant à la lumière. J'étais un enfant, le frère Ernest a dit souvent dans ses prières, j'étais un enfant de colère, je suis maintenant un enfant de lumière. Merci. Un enfant de lumière. Mais ça prend un miracle. Il n'y a pas un homme qui peut faire ça. Il n'y a pas une religion qui peut faire ça. Il n'y a qu'une rencontre intime et personnelle avec la personne de Jésus-Christ. Ça, c'est le fondement. Ça, c'est le fondement du mouvement évangélique. On vous rappelle qu'on doit fermer nos GSM pendant le culte. Il n'y a pas le choix de les concentrer. Autrefois, vous n'étiez pas le peuple de Dieu, mais maintenant, vous êtes son peuple. Autrefois, vous étiez privé de la pitié de Dieu, 1 Pierre 2, 9, 10. Mais maintenant, Dieu, elle vous a été accordée. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Frères et sœurs, les enfants de Dieu sont les héritiers d'un héritage glorieux. C'est pas un héritage qu'on va recevoir sur la terre, mais c'est un héritage qui nous est réservé dans le ciel. Il me semble qu'il n'y a pas si longtemps, j'étais encore un petit garçon, et dans peu de temps, eh bien, je serai transformé par sa grâce, et je recevrai un héritage, dit Pierre au verset 4, qui ne peut ni se souiller, ni se corrompre, ni se flétrir. Et on peut se réjouir des biens que Dieu réserve à ceux qui lui appartiennent, parce que ce sont des biens qui ne peuvent ni se gâter, ni se salir, ni perdre leur éclat. Et Dieu les réserve, hein, c'est ce que Pierre nous dit ici, au verset 4 et 5, Dieu les réserve pour vous, que sa puissance garde par la foi jusqu'à ce que vienne le salut, prêt à être révélé à la fin des temps. Et en attendant, eh bien, on doit demeurer éveillé. On doit montrer dans notre conduite le respect qu'on a pour Dieu et mettre notre espérance dans le don qui nous sera accordé quand Jésus-Christ apparaîtra. Toute notre vie dans ce monde, frères et sœurs, est destinée à nous préparer à recevoir l'héritage que Dieu nous réserve. Que pouvons-nous trouver de mieux dans ce monde? Que l'espérance de voir bientôt ce changement glorieux arriver. C'est vrai. J'espère que votre ambition, c'est pas de vous accumuler des maisons par-dessus des maisons et d'augmenter le plus possible de votre compte de banque de peur que s'il arrive une crise, vous manquez de quoi que ce soit. J'espère que votre espérance, eh bien, c'est de faire en sorte que ce changement glorieux qui va transformer toute chose puisse arriver le plus rapidement possible. Amen. C'est important, ça. Vraiment important qu'on puisse garder nos yeux là-dessus. Voilà ce qui fait votre joie, même s'il faut que maintenant vous soyez attristés. 1 Pierre 1,6, que vous soyez attristés pour un peu de temps par toutes sortes d'épreuves. Les épreuves que nous vivons ont pour but de détruire les mauvaises herbes et les résidus de notre vieille nature, comme le font les jardiniers lorsqu'ils brûlent les feuilles et les branches qui sont mortes. Jésus nous regarde à la lumière de nos intérêts éternels. Jésus, il vous voit à travers ses intérêts, à travers nos intérêts éternels, dont lui seul peut juger. Il cherche à enlever tout péché dans mon cœur jusqu'à ce que mon cœur reflète sa personne. Pardon. Et lorsque mon cœur le reflète, cela signifie qu'il est pur. Je sais que Dieu est à l'œuvre dans mon cœur parce qu'il a un plan bien précis pour ma vie et pour la vôtre aussi. Et il enlèvera en moi tout ce qui fait obstacle à sa gloire. Et dans 1 Jean, dans la première épître de Jean, je vais prendre mon autre version. Je vais dans celle-ci. Dans 1 Jean, chapitre 2. Verset 5, il nous dit, c'est quoi l'amour parfait? C'est celui qui obéit à la parole de Dieu. Il dit, voici comment nous pouvons savoir que nous sommes unis à Dieu, c'est-à-dire que notre relation est maintenue. Celui qui déclare demeurer uni à Dieu doit vivre comme Jésus a vécu. C'est ce que vous avez dans vos versions, oui? Voilà. Et ça c'est vraiment le défi que Dieu place sur nos vies, quoi. Ça c'est vraiment l'investissement que Dieu va faire jusqu'à ce qu'il nous rappelle à lui, nous amener à ressembler à Jésus-Christ pour qu'on puisse vivre la même vie que lui a vécue. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire une vie en obéissance parfaite avec le Seigneur. Et ça c'est vraiment le plan parfait du Seigneur Jésus. On a dit que ce qui détruisait le cœur d'un condamné en prison, c'était de lui faire transporter des pierres d'un mur à l'autre de la prison et de les ramener à la fin de la journée, là où il les avait pris le matin même. Je sais pas si dans les forces armées belges, c'est comme ça, mais chez nous, dans les forces armées canadiennes, quand je me suis enrôlé en 67, quand on faisait une bêtise, il y avait un tas de roches à chaque coin de la base. Et le prisonnier, quand il y en avait un qui était sur une discipline, qu'est-ce qu'on faisait pour le briser? Eh bien, il y avait une brouette et il devait la remplir de pierres et il devait amener ces pierres-là dans un coin, la vider, prendre l'autre pierre, aller la porter dans l'autre coin, faire tout ça. Il faisait ça pendant 8 heures, quoi. Et ça, c'était la grosse punition. Il pouvait être condamné pendant 30 jours, ça dépend. Hein. S'il rentrait 10 minutes en retard, eh bien, on lui faisait, je sais pas c'est quoi le terme en français, s'ispiter. Vous savez quand on, comment vous appelez ça ici, quand on frotte les bottines, il faut qu'ils brillent comme des miroirs? Cirer? OK. Alors, ciré, hein. Alors, ce qu'on faisait, eh bien, à l'époque, on avait des belles poubelles en acier ou en aluminium. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? Il n'y avait pas de sac à l'époque, on vidait les déchets dans la poubelle. Alors, il allait vider les poubelles. Et quand il les avait vidées, il avait à l'intérieur de la poubelle, et il était condamné à cirer l'intérieur de la poubelle et l'extérieur de la poubelle. Et quand il avait fini, là, on vidait, on prenait plaisir à vider les déchets dans la poubelle, tout simplement pour briser les gens. Et c'est vrai qu'on dit que ça détruit le cœur d'une personne, quoi. Ça a vraiment le cœur d'une personne. Mais pour ce qui nous concerne, on ne doit jamais voir les épreuves. Les épreuves ne devraient jamais nous décourager, ne devraient jamais nous abattre. Et on ne devrait jamais voir les épreuves aussi comme étant des sanctions, parce que tout châtiment que nous méritions a été porté à la croix par Jésus-Christ. Les épreuves ont un autre but. Les épreuves que nous pouvons ont pour but de détruire les mauvaises herbes et les résidus de notre vieille nature, comme le font les jardiniers, comme je vous ai dit tantôt. Mais, et Pierre, qu'est-ce qu'il nous dit aussi au verset 7, il dit, afin que l'épreuve, verset 6, c'est là ce qui fait votre joie, puisque maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes attristé pour un peu de temps par différentes épreuves, afin que l'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur. Donc, le but des épreuves, c'est pas de nous amener dans un découragement, mais c'est dans le but de nous amener à louer, à glorifier et à rendre gloire à Dieu lorsque Jésus-Christ apparaîtra. L'or est destiné à disparaître, pourtant il est éprouvé par le feu. De même, votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, est mise à l'épreuve. Pourquoi? C'est pour vérifier la solidité, finalement, de celle-ci. Hein? C'est ce que Pierre dit ici au verset 7. Le raffineur ou le fondeur, quand il fait chauffer l'or, il y a un but bien, il y a un objectif bien en vue, c'est enlever toutes les imperfections qu'il peut avoir dans l'or qu'il va faire chauffer, qui l'empêche de briller à sa juste valeur. Ainsi en est-il avec nous, ainsi le Seigneur agit-il de même avec nous, si nous pouvions seulement, frères et sœurs, avoir une petite idée du genre d'activité à laquelle nous sommes appelés à participer dans l'autre monde, nous saisirions la raison pour laquelle il intervient dans nos vies en permettant que nous passions par différentes épreuves. Et ça, le Seigneur, il n'a pas voulu nous le révéler. Et c'est pour ça que de ce côté-là, on doit marcher par la foi. Mais moi, je ne pense pas que le Seigneur me sauverait pour que je sois dans son royaume et que je règne toute l'éternité, parce que c'est la Bible qui nous dit, on va régner avec Christ, que je vais régner les bras croisés, moi, pendant toute l'éternité, à rien faire. Je ne pense pas que le Seigneur m'invite, moi, à devenir un chômeur éternel dans le royaume de Dieu. Je pense que le Seigneur a des bonnes choses pour nous, quoi. Des choses qui ne sont pas nécessairement révélées, mais quelque chose qui va... En tout cas, il y a certaines choses, on ne mourra pas d'ennui, parce que le Seigneur déborde d'imagination, et je pense que le Seigneur, tout ce qu'il en réserve pour nous, ça va être extraordinaire, quoi. Je ne sais pas si on va lâcher un soupir incroyable quand on va arriver devant toutes ces promesses éternelles qui vont se concrétiser pour nous, quand cette nouvelle terre et ces nouveaux cieux vont apparaître. Les frères et sœurs, on ne peut même pas s'imaginer ce que le Seigneur en réserve pour chacun de nous. Et le défi de l'esprit qui règne dans ce monde, qui contrôle ce monde, c'est de nous détourner de ces promesses éternelles qui sont à notre disposition maintenant et pour l'éternité. Et chercher à faire en sorte qu'on perde notre vie à essayer de la gagner dans ce monde. Ça, c'est le défi de l'esprit qui est dans ce monde. Et c'est pour ça qu'à travers les différents livres dans les Écritures, il y a toujours des promesses qui sont ramenées à la surface pour nous rappeler un, où Christ nous a pris, mais aussi où il nous veut conduire, et aussi les promesses qu'il a pour nous. Et ces promesses-là, l'enfant de Dieu doit s'en emparer. Quand il lit les Écritures et qu'il sent vraiment que le Seigneur dit ça, c'est pour toi, mon enfant, aujourd'hui, on doit prendre cette promesse-là pour nous. Il dit, Seigneur, par la foi, je vais marcher dans cette promesse. Amen. C'est important, mais il faut la lire, la Bible, pour découvrir les promesses. Il faut la lire, il faut la méditer, la Bible, pour être capable de saisir ces promesses. Quand on saisit bien les promesses, quand il arrive les épreuves, on comprend beaucoup mieux pourquoi on passe par ces différentes épreuves. Quand arrivent des persécutions, on comprend beaucoup mieux pourquoi on passe par différentes persécutions. C'est pas l'évangile de la prospérité où personne n'est jamais malade, où personne n'a jamais d'épreuve, où celui qui est pauvre, c'est parce qu'il vit dans le péché, où celui qui est malade, c'est parce qu'il baigne dans le péché. C'est pas ça l'évangile. Quand vous lisez l'évangile, les chrétiens, ceux qui étaient fidèles, ce sont souvent ceux qui passaient par les pires tribulations, quoi, qui étaient les plus persécutés. Rappelez-vous Paul, acclamé une journée comme un héros dans une ville, le lendemain traité comme un zéro, on l'a lapidé, quoi. Ceux qui professaient vraiment publiquement leur foi, c'était ceux qui étaient les plus persécutés. On peut quitter le monde des apôtres et venir aux différents siècles. Tous les chrétiens évangéliques qui voulaient affirmer leur foi ont été persécutés. Et ce que Pierre nous dit ici, c'est qu'on peut se réjouir en chacune des épreuves que nous traversons parce que celles-ci servent à éprouver la valeur de notre foi. Combien j'ai rencontré des gens, moi, qui ont pris une décision pour le Seigneur. C'était Alléluia, Amen, ah, je suis béni, c'est le salut, c'est le ciel. Ça dure 6 mois, quoi, hein. Ils sont flyés, quoi. Ils sont sur l'adrénaline, ça tourne, quoi. La première épreuve qui arrive, ils laissent tout tomber. Et là, tu vas le trouver, tu dis, écoute, ça fait un petit temps que tu viens pas à l'église. Ouais, mais tu sais, il m'est arrivé ça. Moi, si c'est ça, la vie chrétienne, ben, écoute, moi, j'ai laissé tomber, hein. Mais il est en train de nous démontrer que sa foi, c'était peut-être pas, c'était une foi émotive, quoi. C'était une foi qui était peut-être morte, quoi. C'est vraiment pour évaluer la solidité. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Pierre qui le dit. Pour évaluer la solidité de notre foi, la valeur de notre foi que Dieu permet des épreuves. Et lorsque quelqu'un cherche à nous tendre un piège, nous pouvons nous appuyer sur Dieu, car le Seigneur, 2 Pierre, chapitre 2, verset 9, le Seigneur s'est délivré de l'épreuve ceux qui lui sont attachés, et comment tenir en réserve ceux qui font le mal pour les punir au jour du jugement. Et il y a un autre passage dans les Écritures, dans Proverbe 29, qui nous dit que le Seigneur s'est délivré celui qui lui appartient. Et celui qui lui appartient, il le démontre à travers l'obéissance à la parole. Une foi qui n'est pas éprouvée peut être une foi vivante, mais nous pouvons être certains que c'est une foi qui est faible et qui est susceptible de demeurer faible si elle ne passe jamais par le test des épreuves. Il n'y a rien de tel, frères et sœurs, pour faire grandir quelqu'un dans sa foi, lorsqu'il a l'impression que tout semble se retourner, que lorsque les tempêtes arrivent, j'essaie de pas le lire celle-là, mais je passe à côté. Il n'y a rien de tel pour faire grandir quelqu'un dans sa foi, lorsqu'il a l'impression que tout semble se retourner contre lui. Les tempêtes sont là pour le former, et les éclairs sont là pour l'éclairer. Frères et sœurs, un bel exemple, je vais vous donner une illustration, c'est sur l'eau. Lorsque c'est le calme plat, vous pouvez secouer les voiles. Qui fait du voile, de la voile ici? OK, il y a deux riches ici, ça va. Deux riches. C'est beau. Alors, c'est le calme plat. Vous pouvez secouer les voiles autant que vous le voulez. Le navire n'avancera pas parce que vous êtes sur une mer paisible. La quille du bateau est à son point mort. Mais permettez au vent de se lever et aux vagues de stimuler par la force des vents, de s'agiter. Même si le navire commence à être soulevé par les vagues, que l'eau recouvre le pont et que le mât menace de craquer sous la pression du gonflement maximum des voiles, c'est à partir de ce moment-là que vous verrez le navire reprendre la direction qui va le conduire à son port. C'est vrai ou c'est pas vrai? Les deux qui font de la voile, là. Ceux qui ont les moyens de se payer un voilier, là. Ah! OK. Il n'y a pas d'étoile qui brille aussi clairement dans le ciel que celle qu'on retrouve dans le ciel polaire. Il n'y a pas d'eau qui a un goût si doux que celle qui apparaît au milieu du désert. Et il n'y a pas une seule foi qui a autant de valeur que celle qui traverse et qui triomphe de l'épreuve. Quiconque voit sa foi éprouvée ne peut faire autrement que de progresser dans sa vie chrétienne. Amen. Je vais vous donner une preuve de ça. Je ne m'adresse pas aux deux riches, je parle aux autres. Quelqu'un qui a un compte de banque bien garni, quelqu'un qui a une maison, quelqu'un qui a tout ce qu'il veut, souvent, sans porter de jugement. Ce sont des gens, quand il arrive une épreuve dans leur vie, ce sont des gens souvent qui tombent de très haut. Lorsque vous vivez normalement, quoi. Bon, je veux pas dire que ceux qui ont beaucoup d'argent ne vivent pas normalement, mais il est difficile de prier quand on a tout. À satiété, il est difficile de prier que Dieu nous augmente la mesure de notre foi. Et c'est pour ça que l'Église en Occident est pauvre. L'Église a tout ce qu'elle veut en Occident. Vous savez qu'il y a une seule place dans le monde où l'Église diminue, c'est en Europe. Vous savez qu'en Algérie, les chrétiens ne sont pas capables de rentrer pour évangéliser, on les tue encore. Et bien, à Kabyle, Dieu trouve le moyen, à travers différentes choses, manifestations, d'amener des gens à la conversion. Et à Kabyle, une partie en Algérie, il y a un réveil incroyable à Kabyle, à tel point qu'il y a plus de monde maintenant dans les églises que dans les mosquées, à tel point que le gouvernement veut passer une loi pour empêcher les chrétiens de construire des églises. On parle des musulmans qui sont ici, qui nous menacent. Dans différentes régions d'Afrique, Il y a un réveil spirituel. Il y a des musulmans qui se convertissent à la foi chrétienne. Le seul endroit où le christianisme diminue, c'est en Europe. Pourquoi? Parce que l'Europe est riche. Le monde occidental est riche. On a tout. On n'a pas besoin de Dieu. On a tout. Pourquoi Dieu permet les épreuves? Même à travers la maladie. Pour démontrer qu'on puisse voir, nous, la solidité de notre foi. Il n'y a rien d'humiliant que quand il arrive une épreuve, qu'on lance tout, qu'on balance tout, dire Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai pas la foi pour passer à travers cette épreuve. Augmente la mesure de ma foi. Seigneur, je reconnais que ma foi est faible. Et puis on avance dans la vie chrétienne, c'est pas que les épreuves diminuent en importance. Plus on va dans notre vie chrétienne, plus on augmente dans notre foi, plus les épreuves vont être importantes. Et ça, on a des modèles d'hommes de Dieu. Je pense à John Wesley, je parle à Charles Finney, je pense à tous ceux qui nous ont suivis avant. Je parle à Charles Spurgeon. Il est mort à 53 ans. Il a dû se battre pour défendre la foi évangélique. Je pense à Dwight L. Moody. Il est mort en bas de 60 ans. Ces hommes-là ont été persécutés. On a couru après. Et plus leur ministère brillait, plus leur ministère était riche spirituellement, plus les épreuves venaient. Et pourquoi? Parce que Dieu voulait les amener vraiment à dire, écoute, c'est pas ton ministère, c'est toujours mon ministère. Tu travailles pas pour moi, tu travailles avec moi. Et tu dois me faire confiance en toute chose. Laisse-moi diriger. C'est moi qui convertis à travers ton message. C'est pas toi. C'est une grâce que je te fais de proclamer l'Évangile. J'ai pas besoin de toi. Moi, je peux arriver par une simple phrase, par une simple annonce. Dieu est amour ou peu importe. Un verset sur la rue. Je peux convertir quelqu'un. J'ai pas besoin de toi. C'est un privilège que je fais. C'est une grâce que je t'accorde en tant qu'enfant de Dieu. Parce que tu fais partie de mon héritage. Parce que tu fais partie de mon royaume. Frères et sœurs, ça va bien plus loin que ça. Le Seigneur n'avait pas besoin de nous sauver. Il se suffit très bien lui-même. Hein? Il est éternel. Les trois ont toujours vécu ensemble avant de nous créer, avant le début de la création. Et nulle part dans les Écritures, on lit qu'ils nous ont créés parce qu'ils étaient en train de mourir dans lui. Le Seigneur, il se suffit à lui-même. C'est encore une fois une grâce qu'il a fait de faire en sorte que les seules créatures sur la terre qui puissent passer l'éternité, qui puissent avoir un entretien, qui puissent avoir une relation avec leur Créateur, que ce soit un homme et une femme. Combien il y en a qui trouvent ça injuste ou qui se posent toutes sortes de questions? Ah, mon petit chien que j'affectionne, mon chat que j'affectionne, ce 12, 13, 15 ans qui est avec moi, j'espère qu'il va rentrer au ciel, quoi. J'espère que je vais le revoir dans le royaume de Dieu. Ils n'ont pas d'esprit, ils ne peuvent pas communiquer avec Dieu. Il n'y a pas de salut pour les animaux. Sauf qu'Isaïe nous dit qu'il y aura des animaux dans le royaume de Dieu. Je ne sais pas si c'est les animaux qui nous auront accompagnés. Une chose est sûre, seul l'homme et la femme peuvent entrer en communion avec le Seigneur. Même si on aime nos animaux, même s'ils sont gentils. Et on même peut dire, entre parenthèses, qu'il y a des animaux qui ne méritent pas de pourrir dans la terre et que ça se termine là, quoi. Mais Dieu en a décidé ainsi. Quelle grâce il nous a fait, quoi. L'animal meurt, que ce soit le cheval, la vache, le lion, c'est terminé quand il s'en va dans la terre. Nous, il y a une vie après. C'est dans la présence de Dieu, ou privé dans la présence de Dieu pour l'éternité. Dans un lieu de félicité éternelle, ou dans un lieu de perdition, de souffrance éternelle. Il y a Apocalypse 14, il y a une description des souffrances dans l'enfer qui sont terribles à lire, quoi. Dans Apocalypse chapitre 14, quoi. C'est épouvantable, quoi. Et aujourd'hui, on se moque de l'enfer, on vit de l'enfer. On personnifie le diable avec des cornes dans différentes pièces de théâtre, quoi. C'est épouvantable. C'est difficile à supporter de lire Apocalypse 14, les souffrances qu'attendent quelqu'un qui est condamné pour l'éternité. Et Dieu nous fait la grâce de pouvoir partager son évangile. Les épreuves nous permettent de solidifier notre foi, d'acquérir de l'assurance et de tenir ferme face aux tentations par la suite. Si la foi est précieuse pour notre marche chrétienne, frères et sœurs, les épreuves le sont également. Si la foi est précieuse pour notre marche chrétienne, les épreuves le sont également. Moi, je peux dire personnellement que j'ai grandi énormément à travers les épreuves et que je dois grandir encore énormément. Il qu'il y a des épreuves qui m'arrivent dans la vie, je me demande pourquoi Dieu permet que je les aie. Mais je les accepte parce que ça démontre la solidité de ma foi, mais c'est aussi de me faire grandir. Quand on passe à travers une épreuve, on est là sur le palier de l'escalier dans notre foi. Si on la passe, celle-là, le Seigneur, il fait monter sur un autre palier. On monte une autre marche. Et pourquoi? Parce que le Seigneur veut nous amener à ressembler à la personne de Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus, il les a passés une par une, il nous a monté une par une les marches. Une par une. Il nous a dit que le disciple n'est pas plus grand que le maître. S'ils m'ont haï, ils vont aussi vous haïr. S'ils m'ont persécuté, ils vont aussi vous persécuter. Et dans Jean, il nous donne la raison. Parce que vous allez annoncer que leurs œuvres sont mauvaises, que ce qu'ils font dans les ténèbres est mauvais. Et il nous dit aussi dans Jean chapitre 3, tout de suite, versets 17-18, pourquoi les gens n'acceptent pas le Seigneur? Parce qu'ils ne veulent pas dévoiler les œuvres qu'ils pratiquent dans l'obscurité. Ils ne veulent pas les abandonner. Combien sont allés au bûcher et ont péri après avoir été persécutés cruellement? Est-ce qu'ils ont cherché ou désiré mourir de cette façon? Certainement pas. Mais la foi éprouvée par le feu a le pouvoir de résister à toute forme d'humiliation et à toute parole de diffamation. Frères et sœurs, vous savez que l'héritage qui est en vous est plus puissant que tout ce que nous voyons dans ce monde. Gardons comme modèle la foi du Fils de Dieu, Hébreux chapitre 12, verset 2, qui a supporté qu'on le fasse mourir sur la croix sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, et maintenant il siège à la droite de Dieu. Frères et sœurs, gardez en vue la joie qui vous est réservée. Rapidement, Ésaïe chapitre 35, verset 4 et 10. Pendant que vous cherchez, 1 Pierre chapitre 4, verset 13 nous dit « Ne vous étonnez pas d'être dans la fournaise de l'épreuve comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. » Ne pensez pas que quand Dieu vous fait traverser une épreuve, c'est parce qu'il vous en veut. Non. Il vous en veut pas. Ce qu'il veut, c'est vous faire grandir. C'est ce qu'il nous dit, Pierre, ici, 1 Pierre, chapitre 4. Réjouissez-vous plutôt d'avoir part aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi remplis de joie quand il reviendra. Moi, je trouve que c'est une façon extraordinaire d'avoir venir les épreuves, quoi. Je trouve que c'est une manière extraordinaire, maintenant, de voir les épreuves d'une certaine façon, alors que trop souvent, on se dit, ouais, il m'arrive une épreuve dans ma vie, j'ai sûrement fait quelque chose de mal, quoi. Ah, je vis ça, c'est pas normal quand j'aurais commis du péché, quoi. Mais de permettre aussi de voir en tant que chrétien que Dieu permet les épreuves pour établir, évaluer la solidité de notre foi et nous faire grandir, ben, c'est différent, quoi. Et il nous dit, écoutez, quand vous passez par les épreuves, gardez vos yeux fixés sur la joie éternelle qui vous est réservée. Et qu'est-ce qu'il dit dans Ésaïe, chapitre 35, versets 4 et 5 et 10? Et lorsque le Seigneur reviendra, les rachetés de l'Éternel entreront dans la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel avec des chants de triomphe et une joie éternelle illuminera leur visage. Heureux ceux qui pleurent aujourd'hui, car ils seront dans la joie pour l'éternité, dit la parole. Et Isaïe dit ici, une joie éternelle illuminera leur visage, une joie débordante les inondera, tandis que chagrin et soupir seront évanouis. Et ça confirme ce qu'on lit dans Apocalypse, quoi, qu'il n'y aura plus de larmes, ni Dieu essuiera toute larme, toute pleure, et ainsi de suite. Il n'y aura plus ça dans le royaume de Dieu. Hey, frère et sœur, moi, je trouve qu'Isaïe 35, 4 et verset 10, là, ben, j'ai lu 4 et 10. Vous auriez pu lire de 4 à 10, quoi. Bon, c'était peut-être difficile à saisir. J'étais dans le français courant, là, mais c'est magnifique, quoi. Et lorsque le Seigneur reviendra, les rachetés de l'Éternel. Hey, le Seigneur, il est venu nous racheter. C'est nous. C'est nous, quoi. On peut se tourner à droite, à gauche, en avant, en arrière, c'est nous. Vous êtes les rachetés de l'Éternel, quoi. C'est extraordinaire. Et qu'est-ce qu'il dit? Entrerons dans la nouvelle Jérusalem, où la gloire de Dieu va éclairer son peuple. Pas de lampadaire, quoi. Pas d'entretien pour changer les lumières qui brûlent. Dans la nouvelle Jérusalem, c'est la gloire de Dieu qui va éclairer son peuple. Dans la nouvelle Jérusalem. À l'extérieur, c'est différent. Et dans la nouvelle Jérusalem, c'est Dieu qui va éclairer son peuple. Vous imaginez-vous la puissance de Dieu, quoi? Ah, le trône de Dieu va descendre dans la Nouvelle Jérusalem. Dieu s'installe sur son trône en Jésus-Christ. Et on va régner avec lui pour l'éternité, quoi. C'est extraordinaire! Hey, le roi Albert à côté de ça, c'est sans-abri, quoi. Non? La reine d'Angleterre aussi, quoi. Hey, quand vous lisez les belles promesses dans la parole, verset 8, 1 Pierre 1. C'est pourquoi vous vous réjouissez d'une joie glorieuse, si grande qu'elle ne peut pas s'exprimer par des paroles. Frères et sœurs, pourquoi, je me suis posé la question en lisant le verset, pourquoi la joie du chrétien est-elle si inexprimable et si glorieuse? Je pense que c'est parce que cette joie, elle est de nature divine. C'est la joie même de Dieu. C'est la joie du Christ. C'est cette même joie que les anges éprouvent lorsqu'il y a un seul pécheur qui se repent. Et lorsque le Seigneur reviendra, eh bien là, on a la belle promesse d'Isaïe dans Isaïe 35, verset 4 et verset 10. 1 Pierre, chapitre 1, verset 9, rapidement. On trouve, car vous obtenez, ce qui est le but de votre foi, le salut de vos âmes. On trouve un des grands avantages du salut dans les choses à venir, mais il y a effectivement un grand nombre d'avantages que nous pouvons recevoir ici maintenant sur la terre, et je vais terminer avec ça. Je vais vous en donner quelques-uns. Nous recevons pleinement le salut ici-bas et l'espérance de la vie éternelle là-haut. Le Seigneur, il n'est pas mort pour nous pardonner à moitié ou trois quarts ou au quart. C'est pour nous pardonner qu'on puisse recevoir le pardon complètement. Et l'assurance que quand on meurt, on entre dans la présence de Dieu et qu'on touche notre héritage, la vie éternelle. Ça, c'est une des promesses. C'est ce qu'on reçoit maintenant sur la terre. Nous recevons le pardon absolu et définitif de nos péchés ici-bas. Vous pouvez être certain d'une chose, vous acceptez le Seigneur à 18 ans, à 40 ans, le Seigneur n'amènera pas votre dossier de péché pour vous dire, regarde comment tu es épouvantable, quoi. Tu me dois tant. Non. Le Seigneur, la Bible nous dit que non seulement il pardonne, mais il oublie. On reçoit la délivrance de l'esclavage du péché. L'apôtre Paul nous dit qu'avant on était esclave du péché, maintenant on est esclave de Christ, quoi. Il y a un échange qui se passe à la croix. Il y a un échange qui se passe à la croix. Et ça, c'est important qu'on saisisse ça aussi. Et la séparation qui existait entre nous et Dieu est enlevée. Nous recevons la paix de Dieu et nous sommes en paix avec Dieu maintenant. Ce qui nous permet de commencer une relation avec notre Créateur et notre Sauveur ici-bas. C'est pas de l'autre côté. Ici-bas. Nous sommes délivrés de la condamnation maintenant que nous méritions de recevoir à cause de nos péchés. Le péché ne domine plus sur nous maintenant. Maintenant, il y a des chrétiens qui ont en mémoire que quand ils vont arriver au ciel, c'en est fini avec le péché. Le péché ne domine plus maintenant. C'est pas moi qui le dis, c'est Paul qui le dit dans Romains. Romains chapitre 8. Nous pouvons remporter la victoire sur le malin en tout temps et lorsque nous péchons, c'est parce que nous disons oui au péché. Quand on tombe dans le péché et qu'on dit « le diable m'a encouru », là, il y a quelque chose qu'on n'a pas saisi dans notre salut. C'est la parole qui le dit. En Jésus-Christ, en étant uni à Jésus-Christ, pas par mes propres efforts, en étant uni à Jésus-Christ, j'ai la capacité en Jésus-Christ de dire non à tout péché. Quand je dis oui au péché, c'est parce que j'ai dit oui au péché, j'ai dit non à Jésus. Jésus, tasse-toi, j'ai plus besoin de toi, je suis assez fort dans ma foi, je suis capable tout seul. Et c'est là que le diable rentre dedans, quoi. On ne sera jamais capable par nos propres forces de dire non au péché. C'est toujours en Jésus-Christ. Et c'est ce que Paul rappelle dans Éphésiens presque à chaque verset. En Christ. En français courant, en Christ, c'est quoi? Dans votre relation avec Dieu, avec Christ. Christ doit être là avec vous. Il a été tenté en toutes choses, il n'est jamais tombé, il sait comment affronter. Et il va être là pour vous soutenir. Il est capable de vous aider à dire non. Parce que c'est lui qui va combattre pour vous. Amen. Mes frères et sœurs, pour grandir dans votre foi, vous avez besoin de lire la parole. Parce que si vous ne lisez pas votre parole, si vous ne la méditez pas, à chaque épreuve qui va arriver, vous allez tomber. Vous allez être abattu, vous allez être déprimé. Vous allez avoir le goût de tout abandonner. Parce que si vous ne lisez pas votre parole, vous ne saisirez jamais les promesses qui vont vous aider à passer à travers ce combat spirituel à lequel vous êtes appelé à vivre en attendant que Dieu vous rappelle à lui ou que Christ revienne nous chercher. Et c'est un de nos gros problèmes dans nos églises en Occident. Il y a une pauvreté spirituelle dans la lecture et la méditation de la parole. Ça, c'est une chose que j'ai retenue de mon recteur à la faculté de théologie. On a tout. On a les écrans. On a tout. Et moi, j'ai demandé si on a l'écran, c'était la condition pour avoir l'écran. je ne veux pas qu'on projette les versets bibliques sur l'écran. Parce que les églises qui projettent les versets bibliques sur l'écran, les gens n'amènent plus leur Bible, quoi. Pour faire un effort, tourner des pages. Je vais vous dire pourquoi vous devez lire et méditer votre Bible en terminant. Deuxième fois, je le dis, c'est la dernière. Parce que moi, ce que je vous dis en avant, c'est une révélation que j'ai reçue du Seigneur. C'est surtout à moi que c'est surtout moi que ça vise. Vous allez en prendre une partie. Vous allez retourner. On dit qu'après une journée, les gens retiennent 10% du message qu'ils ont entendu. Alors, au bout de la semaine, vous imaginez ce qu'ils ont retenu. Si je vous demandais à la même date l'année passée ce que j'ai prêché, je ne sais pas combien il y en a qui pourraient dire quel message que j'ai prêché. J'essaie pas de tester votre mémoire. C'est simplement pour vous dire une chose. Quand vous lisez les Écritures, quand vous les méditez, que Dieu vous donne une révélation, vous allez la garder jusqu'à la fin de vos jours. Ce que vous entendez en avant, lentement mais sûrement, à moins que vous alliez sur le site de l'Église, lentement et sûrement, ça va s'estomper. Mais quand vous lisez, vous méditez les Écritures, ce que Dieu va vous révéler, ça va vous rester jusqu'à la fin de vos jours. Quand il arrivera une épreuve, quand il arrivera une difficulté dans vos vies, le Saint-Esprit est fidèle, il va ramener ce qu'il vous a révélé, il va dire, « C'est ça que tu as besoin pour affronter tel problème, affronter telle situation, affronter telle difficulté. » Et si vous ne méditez pas la parole, si vous vous contentez de venir à l'église le dimanche matin pour entendre des messages, quand il va arriver des choses dans votre vie, vous allez vous effondrer. Ou vous allez vous appuyer sur vos propres forces. Alors que vous allez réussir à vous en sortir. Mais ça aurait été beaucoup plus facile avec l'aide de Dieu. Beaucoup plus facile. Amen. On va s'arrêter là pour ce matin. On va chanter quelques cantiques et on va vous donner un temps pour louer le Seigneur.